Monsieur Jean-Pierre Roy, bonjour.
Je vous dis bonjour également.
Vous avez organisé un séminaire, une formation de 4 jours à l'intention des juges constitutionnels et d'autres acteurs impliqués dans la préparation des élections locales à venir. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la Cour constitutionnelle est prête pour ces élections?
Effectivement, nous avons, avec l'aide des partenaires que sont la MINUSCA et l'Union européenne, appuyés par l'ONG EISA, nous avons eu cette occasion de tenir des travaux d'un atelier de renforcement de capacité des juges constitutionnels et autres acteurs impliqués dans le processus électoral. Les travaux ont duré 4 jours. Vous-même, vous étiez là, vous avez vu dans quelle ambiance les travaux se sont terminés. Tout le monde est très satisfait de la tenue de ces assises. Et il faut dire que les 2 élections que nous avons en vue sont des élections qui sont tout à fait nouvelles. Donc déjà, les élections régionales sont des élections qui sont tout à fait nouvelles. Et puis, nous allons renouer avec l'élection des membres des conseils municipaux interrompus depuis 1988. Et donc, tout ça, il fallait, en prélude à ces élections, que la Cour constitutionnelle qui a en charge le contentieux et les principaux intervenants dans le processus se voient pour accorder les violons et pour voir dans quelle mesure un certain nombre de problèmes devront être résolus. Il y a des questions d'ordre pratique qu'il fallait régler et avec l'aide de la société civile et surtout la présence des femmes dont on voudrait booster la candidature aux prochaines élections.
Pour ces élections, le choix est porté sur un scrutin à liste et non uninominal. Pourquoi ce choix?
Oui, alors ce choix, le scrutin uninominal est un scrutin facile dans sa mise en œuvre, mais dont les effets sont un peu pervers. Le scrutin uninominal est un scrutin dans lequel celui qui gagne tout et celui qui perd tout. Et donc, le scrutin proportionnel des listes au plus fort reste, eh bien, est différent. On veut que les élections locales soient des élections inclusives, où toutes les sensibilités, qu'elles soient politiques, sociales, dans une localité, aient l'occasion d'avoir une représentativité au conseil municipal. Et donc, on a choisi le scrutin proportionnel de liste pour ça. Donc, ça permet d'équilibrer un peu la représentativité des sensibilités au niveau local.
C'est également dire que c'est pour permettre également la participation aussi massive des femmes pendant ces élections.
Voilà, parce que tout ça va être couplé avec la parité. On va vraiment vouloir traduire la parité, disons, faire en sorte que la participation des femmes soit une participation significative et que la part des femmes soit visible. Et donc, il ne suffit pas qu'il y ait au moins 35% de femmes sur les listes. Il faudrait qu'au finish, il y ait 35% de femmes au sein du conseil municipal, un minimum de 35% parce que c'est le seuil.
Justement, monsieur, parlons de ce quota de 35% de femmes aujourd'hui dans le pays. Que faire si les partis politiques ou organisations politiques de la République centrafricaine ont du mal à présenter ce nombre ou à atteindre ce chiffre?
Dans le code électoral de 2019, il est en relature en ce moment justement à cause de ce problème-là. L'article 281 alinéa 3 autorisait la Cour constitutionnelle, en cas d'impossibilité avérée, de valider des listes de candidatures ne remplissant pas la condition de 35% de candidatures féminines. Il me semble que pour les élections municipales surtout, la situation ne changera pas beaucoup pour les élections régionale, puisque c'est le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours, mais le scrutin municipal qui est un scrutin de liste, les choses se passeront autrement. Parce que l'article 201 prévoit la possibilité d'aller aux élections dans une localité avec une seule liste. Et donc, si nous avons 10 listes dans une localité, et s'il y a une seule des listes qui a fait l'effort d'avoir 35% de femmes, eh bien, on va valider cette liste-là, et comme le prévoit le code électoral, les élections peuvent avoir lieu dans une localité avec une seule liste. C'est la raison pour laquelle on a recommandé fortement la suppression de cet alinéa 3 de l'article 281 qui prévoit cette fenêtre qui permet de valider une liste qui ne remplit pas les conditions. Alors, je pense que cette fenêtre ne se justifie plus dans le contexte des élections municipales, puisqu'on peut aller aux élections avec une seule liste. Parce que, bon, mais les autres qui ne se seraient pas bousculés pour avoir 35%, si sur 10 listes, 9 ne remplissent pas les conditions et que la 10e liste a 35% de femmes, c'est cette seule liste sera validée et on ira aux élections avec cette seule liste-là.
On se pose la question aussi de savoir, est-ce que la Cour constitutionnelle va bien faire son travail puisque le code électoral est encore dans un processus de révision?
Oui, la Cour constitutionnelle qui est juge des élections, eh bien, est chargée d'interpréter et d'appliquer les textes. Et je suis en train de vous parler du texte en l'état actuel. En l'état actuel, l'article 201 autorise les élections avec une seule liste. Et donc, les textes applicables en l'état donnent déjà assez d'arguments à la Cour pour pouvoir travailler sérieusement et forcer tous les partis politiques à chercher 35%. 5% de femmes sur les listes. L'information est donnée pour tous les partis politiques.
Comment va-t-on traiter la question des communes d'élevage ? Cette question a été également discutée lors de ces assises-là.
En l'état actuel des textes, la question des communes d'élevage est une question complexe. Complexe pourquoi ? Parce que les collectivités ont deux niveaux, le niveau régional et le niveau communal. Les communes composent les sous-préfectures. Les sous-préfectures composent les préfectures et les préfectures, les régions. Et en l'état actuel des textes, il n'est pas possible d'avoir une commune qui s'étend sur deux sous-préfectures. Voilà le problème des communes d'élevage. Je ne sais pas. On est dans l'étude des textes en ce moment. Soit laisser de côté les communes d'élevage ou bien traiter les communes d'élevage par exemple, mais lorsqu'une commune d'élevage s'étend sur deux sous-préfectures, eh bien le mieux serait de scinder la commune d'élevage en deux pour que chaque commune d'élevage reste dans une sous-préfecture.
L'actualité oblige, monsieur, la Constitution, en son article 99, fixe le nombre des juges constitutionnels à 9, mais pour le moment vous n'atteignez pas ce nombre. N'exercez-vous pas dans l'illégalité vis-à-vis de la loi ?
Il n'y a pas d'entorse à la loi, à la Constitution. On se trouve devant des cas d'impossibilité. Alors, nous avons fonctionné pratiquement 8 ans avec un membre en moins, le représentant du Sénat. On n'a pas de Sénat et donc on ne peut pas inventer un juge qui représente le Sénat. Bon, ce qui est arrivé dans notre pays, tout le monde le sait. Il y a deux de nos membres qui ont été admis à la retraite, 8-2, ce qui fait 6. Et nous attendons le remplaçant de la justice. Il y a un magistrat qui devrait être élu, qui va compléter le nombre. On sera à 7. Bon, on a travaillé à 8. On va se retrouver maintenant à 7. Nous sommes habitués avec le rythme du travail. Et vous avez vu que pendant les travaux, nous avons envisagé la possibilité de déléguer nos compétences aux magistrats de droit commun. C'est pour ça qu'on les a invités. TGI de Bangui, TGI de Bimbo, la Cour d'appel, la Cour de cassation, le tribunal administratif, le Conseil d'État, ils sont tous là, les magistrats sont tous là et nous avons commencé à discuter de la question et on continuera à perfectionner cette question, étant entendu que nous avons déjà demandé à nos experts qui nous appuient, eh bien, de penser à nous aider à élaborer la forme et le fond du document de délégation de pouvoir de la Cour constitutionnelle, eh bien, aux juridictions de droit commun. Et donc on va se faire doubler par les membres des juridictions de droit commun pour nous appuyer dans ce travail.
Monsieur Jean-Pierre Rouaboué, nous vous remercions.
C'est moi qui vous remercie.